Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, EPR, le nucléaire à tout prix. Ce matin, l'ancien patron du groupe automobile PSA, Jean-Martin Folz, remettait à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, un rapport d'audit sur les coûts de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Tout en estimant que cette technologie nucléaire avait démontré sa pertinence, son rapport pointait les défaillances techniques et industrielles dans la mise en œuvre de cette technologie et qualifiait ce projet d'échec pour EDF. Bruno Le Maire a immédiatement demandé de remettre la filière nucléaire française au meilleur niveau d'exigence. Un plan difficile à mettre en œuvre en raison de l'endettement de l'entreprise et du lancement du projet Hercule qui prévoit la séparation des activités nucléaires, de barrages et de transport d'électricité d'EDF et des activités liées à l'énergie renouvelable ou à la distribution. Nous allons tenter ce soir en 40 minutes, c'est court, de comprendre les enjeux économiques du nucléaire à ce stade de son développement avec nos quatre invités. Valérie Faudon est déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Yves Marignac est directeur. Bonjour, bonsoir. Yves Marignac est directeur de l'agence Wise Paris, agence d'information et d'expertise sur le nucléaire et l'énergie, et il est également porte-parole de Negawatt. Bonsoir.
Bonsoir.
Aurélien Saucé est avec nous depuis les studios de la BBC à Londres, que nous remercions de l'y accueillir. Vous étiez jusqu'à peu économiste à l'OFCE et vous êtes actuellement chercheur à la London School of Economics. Bonsoir Aurélien Saucé.
Bonsoir.
Et avec nous au téléphone depuis Bruxelles, Marc Defresne, ancien fonctionnaire à la Commission européenne, ancien expert à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, et vous travaillez à la construction aujourd'hui d'une une ONG qui s'appelle WeCare et qui veut promouvoir un mix énergétique dans lequel le nucléaire aurait une place importante.
De Flamanville devait coûter un peu plus de 3 milliards d'euros et sa construction devait durer 4 ans et demi. Il coûtera 4 fois plus cher et sa construction durera 15 ans. C'est un échec pour toute la filière électronucléaire française. Et nous devons reconnaître cet échec pour le traiter et en tirer toutes les conséquences.
Valérie Faudon, ça ne doit pas faire plaisir d'entendre un ministre, le ministre de l'économie et des finances, parler d'un échec pour toute la filière électronucléaire française à propos justement de cette EPR de Flamanville, de son coût et des durées de fabrication.
Je pense que les difficultés, les retards de Flamanville, c'est une déception pour tout le monde, y compris pour la filière nucléaire française. Ce qui est bien, même s'il y avait des choses dans le rapport qui étaient déjà connues, c'est que ce rapport est vraiment utile parce qu'il permet de mettre à plat toutes les raisons qui ont généré ces difficultés, ces retards. Donc c'est une base de travail commune pour l'ensemble de la filière nucléaire.
Est-ce qu'on peut rappeler la chronologie, pourrait-on dire, de cette EPR de Flamanville et pourquoi, d'une certaine façon, alors qu'il a été lancé très tôt, le même EPR ou un type d'EPR relativement semblable fonctionne déjà en Chine alors qu'il ne fonctionne pas chez nous?
Oui, en effet. Donc, c'est bien rappelé dans le rapport de Monsieur Folz, que la décision a été prise en 2006. Donc, en effet, comme vous le dites, il y a aujourd'hui 2 EPR qui fonctionnent, qui sont en exploitation commerciale en Chine, les 2 EPR de Taishan, dont l'un depuis plus d'un an. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors oui, l'autre information très importante qui est donnée dans le rapport, c'est que, pour le coup de l'EPR de Flamanville, on a eu donc 2 EPR en Chine. Donc pourquoi c'est allé plus vite en Chine? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les chantiers ont démarré après, donc il y avait déjà les premiers enseignements, les premières difficultés de Flamanville. Ils ont été construits par paires et le rapport insiste bien que des réacteurs nucléaires, comme on l'a fait historiquement dans le parc nucléaire, il faut les construire par deux parce qu'il y a toujours beaucoup de synergies. Et puis l'autre point qui est très important, c'est que la Chine est en plein programme de construction. Ils ont mis en ligne plus de 30 réacteurs depuis 2010, c'est-à-dire qu'ils ont des personnels extrêmement formés, des gens qui ont déjà construit des réacteurs, soudeurs, puisqu'on a beaucoup parlé de soudeurs.
Ouais, la France, tout de même, c'est la grande puissance nucléaire mondiale. Donc, pourquoi dites-vous qu'ils sont plus formés que les nôtres?
Parce qu'en fait, autant on est le plus grand exploitant mondial, donc on a des compétences extrêmement importante en exploitation à maintenance. Autant on n'avait pas construit de réacteurs depuis 15 ans. Et donc, dans les années 80, on avait un vrai programme industriel avec une ambition politique, une politique industrielle. Tous les acteurs étaient regroupés autour d'un programme et d'objectifs communs avec plusieurs réacteurs. Vous savez, pour construire moins cher, il faut construire en série, il faut donner de la visibilité aux industriels.
On y reviendra.
Oui.
Yves Marignac, vous n'avez peut-être pas la même analyse que Valérie Faudon, que vous connaissez bien pour ne pas être souvent d'accord avec elle, j'imagine. Vous êtes directeur de l'agence Wise Paris et également porte-parole de Negawatt. Alors évidemment, cette question du nucléaire dans ce mix énergétique que nous avons en France, vous la trouvez trop importante par rapport à ce que nous devrions avoir ?
Oui, la place du nucléaire dans le débat français sur l'énergie est évidemment trop importante, mais il y a des bonnes raisons pour ça, que la crise actuelle et les propositions qui ressortent des premiers éléments de communication d'EDF et du gouvernement soulignent en creux, c'est-à-dire que effectivement, la Chine réussit mieux aujourd'hui parce qu'elle a une industrie en construction. La Chine réussit mieux aussi parce que elle est encore, d'une certaine manière, dans une logique de planification. Et un des points fondamentaux dans l'histoire...
Vous voulez dire que la grande histoire de la data et du plan à la française d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est derrière nous, ça.
Le nucléaire s'est construit en France, d'une certaine manière, comme un domaine régalien. Avec des décisions de l'État, des gouvernements, des partis de gouvernement qui étaient tous d'accord. Donc c'était une politique nationale, ferme, avec beaucoup de visibilité. Et cette période, elle est, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, révolue. Et on voit bien que c'est ce problème-là qui est au fond à l'origine des difficultés que rencontre l'industrie. Et on voit bien que ce qui est proposé aujourd'hui, c'est justement pour retrouver la compétence, de redonner de la visibilité, de repartir dans un programme de construction et de le faire à nouveau dans une logique régalienne avec tout le lien avec la nationalisation du parc, etc. Mais cette vision-là qui n'a plus cours... Hein, elle est effectivement aujourd'hui extrêmement pesante, prégnante dans le débat sur l'énergie.
Et
elle empêche de raisonner sur les alternatives. Oui, elle est dépassée parce que aujourd'hui, très clairement, la compétitivité, elle est du côté des renouvelables. La dynamique, elle est du côté des renouvelables. Et c'est ça l'avenir européen. Et ça devrait être ça l'avenir pour notre pays.
Très brièvement, Valérie Faudon, et je donne la parole ensuite à Aurélien Sucé et à Marc Defresne qui ne sont pas en studio avec nous.
L'avenir, il est nucléaire et renouvelable. On a besoin des deux et tous les grands experts, d'abord les experts internationaux du climat, mais aussi les experts de l'OCDE, on va les entendre, disent qu'il va falloir, pour avoir ce grand plan Marshall du climat qu'on attend, il faudra du nucléaire et des renouvelables. Et en ce sens, pour reprendre le mot de régalien, oui, le nucléaire est régalien, parce que c'est une infrastructure stratégique, puisque cet EPR, en fait, on va en avoir besoin pour fournir de l'électricité de manière massive, 24 heures sur 24, tout ça sans émettre les fameux gaz à effet de serre responsables du climat, donc on en aura besoin pour atteindre nos objectifs climatiques.
Aurélien Saucé, vous êtes économiste, je rappelle que vous avez été à l'OFCE jusqu'à il y a peu, et que vous êtes maintenant chercheur à la London School of Economics. C'est pour ça que vous êtes dans les studios de la BBC à Londres avec nous. Qu'est-ce que vous pensez justement, en tant qu'économiste, vraiment de cette question du coût, puisque nous voulions justement axer notre discussion dans un premier temps sur cette question du coût justement de l'EPR, mais plus généralement du nucléaire tel qu'il fonctionne à la française.
Bah justement, en fait, ce qui a surpris au cours des dernières années par rapport au coût du nucléaire et surtout par rapport aux autres technologies de production d'électricité, notamment renouvelables, c'est que le coût du nucléaire a tendance à augmenter au fil du temps. Juste un chiffre très rapide, au cours des 10 dernières années, si on regarde le coût moyen d'installation, pas seulement en France, mais le coût de construction des réacteurs dans les pays qui en ont construit cette dernière décennie, on a une augmentation du coût de 25% pour le nucléaire, alors que dans le même temps, le solaire a été divisé par 10, et l'éolien était divisé par 4.
Et pourquoi cette augmentation alors qu'a priori, on est dans une technologie connue ?
Alors, la raison qui est souvent mise en avant, c'est que les normes de sécurité ont été renforcées, notamment suite à l'incident de Fukushima. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, on parlait d'une renaissance du nucléaire au niveau mondial, notamment déjà pour lutter contre le changement climatique. Et que suite à Fukushima, le renchérissement... des normes, plutôt le renforcement des normes de sécurité a conduit à un renchérissement. Et si on regarde l'EPR, une des difficultés de construction de l'EPR par rapport à la deuxième génération, donc la génération qu'on avait construite dans les années 80, c'est justement cette deuxième enceinte de confinement qui est construite autour du réacteur.
Et qui est nécessaire pour les nouvelles normes, justement.
Je ne suis pas du tout en train de la remettre en cause, bien entendu, mais qui en tout cas conduit à un renchérissement. Et donc, on n'a pas cet effet de réduction des coûts. Alors, l'autre élément, c'est que de la même façon que pour le nucléaire, quand on se construisait en grande série, on avait une diminution des coûts, c'est vrai pour les autres technologies. Et le monde entier parie sur les renouvelables, ce qui fait qu'on a des installations de capacité. Là, on a presque installé 200 gigawatts de renouvelables au cours de l'année 2018 au niveau mondial. Donc ça, forcément, on a un apprentissage et une réduction des coûts sur l'ensemble du globe. Alors que c'est vrai que les ambitions nucléaires, y compris de la Chine, qui avait un plan très ambitieux dans son plan quinquennal il y a 10 ans, et qui aujourd'hui est très en dessous en termes de nombre de réacteurs construits ou installés, on a plutôt une réduction de la voilure sur les programmes nucléaires internationaux, et y compris en France.
Et pour vous, Marc Defresne, qui êtes ancien fonctionnaire de la Commission européenne et ancien expert à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit votre confrère Aurélien Lassossé sur ces coûts, le coût justement du nucléaire dans un budget comme celui de la France ?
Écoutez, je pense que vous m'entendez là.
Oui, oui, très bien. Vous m'entendez bien.
Très bien. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses vraies qui ont été dites par les trois intervenants précédents. Moi, ce que j'aimerais, surtout en tant qu'ancien fonctionnaire à la Commission européenne, c'est remettre cela peut-être dans un cadre général qui est le cadre européen. Et en fait, il faut réfléchir véritablement en termes de système global. Il faut remettre le nucléaire dans sa place, dans le rôle qu'il a à jouer dans un mix énergétique bas carbone du futur. Vous savez qu'au niveau européen et au niveau des pays européens, il y a cette perspective d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire d'avoir un mix, une électricité complètement décarbonée, sans plus du tout avoir recours aux énergies fossiles d'ici à 2050 et d'aller le plus rapidement possible dans cette transition énergétique. Et évidemment, bien entendu, les renouvelables, tout le monde est partisan et c'est tout à fait normal, ils sont complètement décarbonés, ils ont leur rôle à jouer. L'efficacité énergétique également a son rôle à jouer. Ceci dit, on évoluera vers plus d'électricité et plus d'électrification. Et donc en fait, il faut quand même à un moment donné faire la part des choses entre les mythes et les réalités. Parce que les renouvelables et les renouvelables intermittents en particulier, qui ont besoin de pouvoir fournir avec des capacités de stockage, avec éventuellement des recours à la combinaison avec certains gaz tels que l'hydrogène et autres, tout cela reste véritablement à développer et à démontrer. Donc il n'y a pas photo, il faut rester réaliste, et dans ce réalisme-là, le nucléaire a son rôle à jouer. D'abord et avant tout, déjà les centrales existantes, il serait tout à fait logique aussi en termes de coûts, puisque nous parlons de coûts en particulier, d'aller le plus loin possible en termes d'extension de vie des centrales existantes. Il faut lire à ce titre-là le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Je dis bien l'Agence internationale de l'énergie. Je parle pas de l'Agence de l'énergie nucléaire, de l'OECD qui est sorti au mois de mai dernier et qui explique très bien que la manière la plus économique de produire de l'électricité aujourd'hui, c'est d'aller en extension de vie vers les centrales nucléaires existantes. Tout ça dans un mix énergétique avec le renouvelable. Je ne suis pas du tout en train de me mettre en opposition ici au développement des énergies renouvelables. Après ça, il faut continuer à viser vers le futur, vers le plus long terme. Et pour ça, il faut en tout cas, et c'est bien ce que montre le rapport Foltz également, il faut s'assurer à maintenir la capacité, la compétence, les industries de support qui viennent en support à la construction des centrales. Et donc, il faut bien rentrer à un moment donné dans une phase de démonstration et dans une phase de démonstration dans un effet de série. Donc il ne faut pas aujourd'hui se lancer dans un programme de construction de 20 ou 30 nouvelles centrales nucléaires en France, mais il faut un minimum de façon à pouvoir assurer la capacité d'un pays comme la France de rester présente sur le nucléaire.
Vous êtes donc d'accord avec Valérie Faudon, Yves Marignac, sur à la fois le maintien de centrales anciennes dont on va poursuivre l'exploitation plus loin que ce qui était prévu, plus loin que les 40 ans qui étaient prévus, mais également sur la nécessité ou pas de recréer de nouvelles centrales et en particulier ces fameuses EPR en développant justement cette technologie de l'EPR après Flamanville, puisque c'est cette question qui est en jeu.
Sur le premier, enfin sur votre deuxième point, c'est-à-dire la nécessité ou non de nouveaux réacteurs, on vient de parler justement de réfléchir en termes de système global et encore une fois, aujourd'hui, les potentiels de maîtrise de la consommation l'efficacité, mais aussi la sobriété et les potentiels de développement des renouvelables, y compris avec les systèmes de stockage dont on a besoin à l'horizon 2030-2040 pour aller vers 100% de renouvelables électriques.
Les systèmes de stockage, c'est donc pour pouvoir stocker justement l'électricité qu'on ne sait pas véritablement stocker aujourd'hui.
Alors l'électricité aujourd'hui, on sait la stocker, mais on ne sait pas la stocker dans les quantités et pour les durées qui peuvent apparaître nécessaires dans un système qui fonctionnerait avec 100% de renouvelables et qui ne fonctionnerait plus avec ce qui est la base aujourd'hui du système, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centrales en base, comme les centrales nucléaires justement. Mais ce système de l'avenir, il existe, il est envisageable. Le GIEC, donc les experts du climat, a bien montré dans son rapport récent sur les trajectoires 1,5 degré que des scénarios où il n'y a plus de nucléaire sont tout à fait susceptibles de répondre à cet objectif 1,5 degré. Et aujourd'hui, le point sur le nouveau nucléaire, c'est que chaque euro investi ne peut être investi qu'une fois. Et donc il faut l'investir de façon urgente dans les choses les plus efficaces, les plus efficientes pour réduire le plus vite possible les émissions de gaz à effet de serre. Investir aujourd'hui des euros dans un programme nucléaire qui ne fournira des résultats au vu du retour d'expérience que dans 15 ans ou 20 ans, alors qu'on peut dans 5 ans avoir des résultats sur de la maîtrise de la demande
ou sur
des
énergies renouvelables, ça
c'est
plus rentable,
beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace par euro investi. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas photo là-dessus. Sur les centrales existantes.
Ouais. Et la poursuite de vie.
C'est un raisonnement à très court terme de penser que le meilleur moyen de maintenir nos émissions basses est d'investir dans leur prolongation. D'abord parce que en faisant ça, on n'investit pas dans la préparation de l'avenir. Et puis parce que elles sont quand même vieillissantes et que il y a le risque croissant d'accidents à mettre dans l'équation.
Valérie Faudon.
Oui, je pense que le climat, c'est maintenant. C'est urgent et c'est maintenant. Moi, je pense que c'est vraiment une faute contre le climat aujourd'hui de fermer une centrale nucléaire qui, en plus, est vraiment autorisée, a été inspectée par l'autorité de sûreté qui dit qu'elle est fiable et qu'elle peut fonctionner, de fermer une centrale nucléaire alors qu'à côté, il y a des centrales à charbon qui fonctionnent. Je pense que ça, c'est une faute pour le climat. Parce que ce que dit bien le GIEC, c'est que le climat, c'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions. Parce qu'une molécule de CO2 qui est dans l'air, elle y reste et ça s'accumule. Donc c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions.
C'est-à-dire que, en tant que directrice générale de la Société française d'énergie nucléaire, vous saisissez le discours ambiant, d'une certaine façon, de sauvetage de la planète qui est partagé par beaucoup de gens après avoir été contesté par certains, vous le saisissez, ce discours, en disant ça va nous aider, nous, le nucléaire, à nous développer, parce que, d'une certaine façon, c'est une énergie qui n'a pas les inconvénients des autres énergies, en particulier les énergies qui utilisent des énergies fossiles.
C'est en ça que le nucléaire est une énergie d'avenir. Donc, pour revenir sur le GIEC, les fameux experts internationaux du climat, il y a 89 trajectoires développées par le GIEC. Il y en a aucune sans nucléaire. Et même, il y a même une trajectoire où c'est multiplié par 10. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc je vous renvoie au discours qu'a fait le président du GIEC il n'y a pas très longtemps à Vienne. Et pourquoi on va avoir besoin de nucléaire? Parce que ce système qu'on imagine avec que des renouvelables et du stockage, on ne sait pas si ça peut fonctionner à grande échelle. Donc c'est un pari.
C'est un pari sur
le climat. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il faut un socle nucléaire. Et c'est d'ailleurs tous les scénarios le disent, y compris ceux de la Commission européenne, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-nucléaire. Hein. Ils disent qu'il faut environ environ 110 gigawatts de nucléaire à 2050, dont au moins 40 en France. Donc c'est moins qu'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut être en mesure, dans les années 2030-2040, de renouveler une partie de notre parc nucléaire. Et ça, on le fera avec des EPR.
Aurélien Saucet, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de la BBC à Londres.
Oui, j'aimerais revenir peut-être sur trois des déclarations qui ont été faites. La première sur l'extension des centrales. Le problème, c'est qu'on mélange un petit peu la question de la construction de nouvelles centrales de génération 3, donc qui sont les EPR.
Mais c'est généralement mélangé par les décideurs publics. Hein. En l'occurrence, le gouvernement mélange les deux, souvent la plupart du temps. C'est-à-dire à la fois poursuivre les centrales, l'existence des centrales, et de l'autre côté, en construire de nouvelles. Ça fait partie du discours gouvernemental.
Tout à fait, mais en termes de coûts, c'est très très différent. Et donc on a noté que l'intervenant de la Nuclear Energy Agency a noté que c'était un coût d'électricité faible de les prolonger, les centrales actuelles, au-delà de leur durée de vie initialement prévue de 40 ans. Mais je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2016 qui notait que c'était quand même 980 millions d'euros par réacteur. Et donc pour qu'on arrive à un coût de l'électricité qui soit comparable à celui qu'on a pu connaître sur les 40 premières années d'exploitation de ces réacteurs, il faudrait que leur prolongation dure 20 ans. Et ça, c'est sujet à l'approbation de l'autorité de sûreté nucléaire en France. Et c'est absolument pas certain qu'ils seront prolongés pour cette durée.
Non, et, ça, mais la semaine dernière, tout de même, l'autorité de sûreté nucléaire a dit que EDF n'avait pas besoin d'arrêter la production de ses centrales malgré des défauts détectés sur les soudures de certains générateurs de vapeur conçus par Framatome, donc sur les centrales anciennes, et que pour l'instant, ça n'était pas utile ou indispensable qu'ils les arrêtent, justement, cette exploitation, Aurélien Saucé.
Non, mais il n'est pas question de toute façon de les arrêter maintenant parce qu'on ne saurait pas par quoi les remplacer. Ça, à ce niveau-là, c'est certain qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais on recule finalement la date de décision de ce qu'on va faire après ces générations nucléaires de 10 ou 20 ans. Donc c'est quand même un débat qu'on doit avoir maintenant, de savoir si on doit continuer dans la filière nucléaire en France ou si on doit en sortir progressivement. Et le souci qu'il y a par rapport à la nécessité absolue du nucléaire, si on regarde sur le scénario 100% électricité renouvelable qui avait été contesté, celui de l'ADEME, mais auquel l'ADEME avait répondu, sur la faisabilité d'un mix 100% renouvelable en France, on voit qu'avec des hypothèses à la fois de gestion de la demande, donc d'ajustement de la demande électrique des ménages et des entreprises au cours de la journée pour être plus calqué sur l'intermittence des renouvelables, et avec des technologies de renouvelables qui sont pas de stockage, pardon, qui sont pas de la science-fiction, qui sont certes pas encore construites à l'échelle, mais qui sont pas extrêmement spéculatives, en tout cas pas plus spéculatives que les réacteurs nucléaires de génération 4, on arrive à 100% d'électricité renouvelable en France. Donc c'est la question de la réduction de la part du nucléaire, elle est aujourd'hui non plus une question technologique, ni même une question économique, parce que lorsqu'on regardait les impacts macroéconomiques d'une transition vers ce 100% d'électricité renouvelable, l'évaluation qu'on avait réalisée à l'OFCE, on observait qu'on n'avait pas un coût qui était supérieur au fait de rester à la part actuelle de 3/4 d'électricité nucléaire, pour la bonne et simple raison, une fois encore, qu'on a eu un effondrement des coûts des renouvelables que personne n'anticipait il y a 10 ans. Je travaillais moi-même à l'Agence internationale de l'énergie il y a 10 ans dans nos scénarios. On n'avait absolument pas des projections de ce type-là et personne ne nous aurait cru si on avait projeté une division par 10 des coûts du solaire.
Donc, bien sûr.
Ça, faut bien noter que ça a pris quand même tous les analystes par surprise, cet effondrement du coût des renouvelables.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et oui, il faut se rappeler que de tout début des années 80, le groupe allemand Kraftwerk vantait la radioactivité comme étant la modernité, mais dans une sorte de vision un peu ironique à la fois du passé et du présent. Et c'est une reprise de ce titre de Kraftwerk par Fatboy Slim que nous venons d'écouter. À l'instant même, vous écoutez le temps du débat, un temps du débat qui pose une question simple. L'EPR est-il le nucléaire à tout prix, en jouant sur ce jeu de mots justement à propos du prix du nucléaire. Valérie Faudon est avec nous, Yves Marignac, Aurélien Saucé et Marc Defresne. Vous n'êtes pas encore intervenu une seconde fois. Je rappelle que vous êtes ancien fonctionnaire de la Commission européenne, ancien expert à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, et que vous êtes par ailleurs en train de créer à Bruxelles une ONG qui s'appelle WeCare pour promouvoir un mix énergétique dans lequel le nucléaire prendrait une grande place. Alors Marc Defresne, justement, sur ces questions, on parle par exemple de l'effet falaise. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'effet falaise dont parlent beaucoup les défenseurs du nucléaire en France, c'est-à-dire la question de il faut rapidement réinvestir dans le nucléaire parce que sinon ça posera des problèmes d'ici à 2 ou 3 ans.
Oui, alors cet effet falaise, ça consiste en fait au fait qu'il y a un certain nombre de centrales, qu'on en a déjà touché un mot précédemment là, qui sont arrivées à leur limite d'âge initialement par conception, qui était donc au départ de 40 ans, ce qui ne veut pas dire que à ce moment-là, les centrales sont totalement vieillissantes et doivent être déclassées. Hein. C'est comme une voiture, bon, elle arrive à son âge, on fait une évaluation, un contrôle technique, et si elle est bonne, eh bien, elle peut continuer à rouler. Donc ici, c'est l'autorité de sûreté qui effectivement doit jouer son rôle et doit déterminer si le niveau de sûreté de ces centrales, avec éventuellement bien entendu une remise à niveau. Et M. Saucet a effectivement cité le rapport de la Cour des comptes et a mentionné les 980 millions d'euros qui sont mentionnés pour mettre une tranche à niveau. L'AEN est en train à ce stade-ci de refaire une étude sur justement les coûts au niveau global dans différents pays de la remise à niveau des centrales existantes, et les coûts varient de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros vers à peu près le milliard. Donc les estimations françaises sont plutôt vers le haut du panier par rapport à d'autres pays. Et cela, même avec ces coûts-là, pour une durée de vie, une prolongation de vie de 20 ans supplémentaires, les coûts de l'électricité qui sont produits par ces centrales en extension de vie restent plus que compétitifs par rapport à tous les autres moyens. Il suffit de faire les calculs de coûts, ça se fait assez facilement et il n'y a pas photo là-dessus. On peut reprendre à ce titre-là aussi, encore une fois, je l'ai déjà mentionné, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie du mois de mai de cette année-ci. Donc l'effet falaise, ce serait le moment où un certain nombre de tranches existantes en France devraient être arrêtées parce qu'arrivant à leur fin de vie. Et comme les 7 centrales ont été construites par bloc, en particulier la première série s'est construite sur une période de 10 ans, donc ces centrales vont à leur fin de vie sortir sur une période extrêmement réduite de temps. Et à ce moment-là, bien entendu, le parc de production français va se retrouver tout à fait démuni et il va falloir remplacer à ce moment-là assez rapidement les centrales qui sortent du jeu. Mmh. Ce qui veut dire qu'on aura un effet un besoin de construction extrêmement rapide et en bloc de nouvelles centrales. Mmh. Ça, c'est cet effet falaise. Et donc, il vaut mieux prévoir ça et le prévoir à l'avance. Bon, ma vision personnelle de cette et non pas en tant que Français, mais en tant que, je disais, moi je suis belge, j'ai travaillé à la Commission européenne. Ma vision en ce qui me concerne, c'est que globalement, au niveau français, la moyenne d'âge des plus vieilles centrales est aujourd'hui à 40. Elles arrivent à 40 ans, c'est SNM qui est la plus ancienne.
Les premières,
donc si les centrales sont prolongées pour une vingtaine d'années, et à ce stade-ci, il n'y a pas de raison de croire que c'est impossible, il n'y a pas de signaux négatifs qui ont été émis jusqu'à présent du côté de l'autorité de sûreté, donc il y a un potentiel réel de prolonger les centrales. Si ça se fait, écoutez, ça nous donne quand même un délai de temps d'encore une dizaine d'années avant de devoir commencer à rentrer dans un programme lourd de construction de centrales nucléaires.
Ouais, merci.
Ce qu'il faut, c'est que pendant cette période de
Marc Defraid,
si maintenant, il faut garder la compétence.
On laisse parler les autres invités, s'il vous plaît. Sur ce point, Yves Marignac, vous dites qu'en fait, la filière française est enfermée dans son propre modèle. Vous la critiquez, cette filière française et ce modèle en même temps, en tant que responsable de YC Paris et de Négawatt. C'est quoi ce modèle dans lequel on serait enfermé et dont on ne penserait pas pouvoir sortir?
Ben c'est le modèle d'un système électrique extrêmement centralisé, fonctionnant avec ses grosses installations nucléaires en base. Et c'est un modèle dont, effectivement, le manque d'anticipation par rapport à cet effet falaise nous condamne d'une certaine manière à le reproduire. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin de retrouver de la marge de manœuvre pour faire le cas échéant d'autres choix.
On peut être contre le nucléaire comme vous et se dire que tout ce qu'on fait, il faut quand même laisser du temps pour pouvoir arriver à une
maturité. L'effet falaise, si on le gère comme M. Defraid vient de le proposer en disant on peut prendre le temps de prolonger toutes les centrales et puis on verra dans, alors il dit 20 ans, personne aujourd'hui ne s'engage sur le fait de pouvoir prolonger 20 ans, l'autorité de sûreté nucléaire parle de 10 ans, on passe de 10 ans en 10 ans, mais si on repousse de 10 ans cette espèce de mur d'investissement pour remplacer nos réacteurs quand ils ferment, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la bonne approche, c'est retrouver des marges de manœuvre. Retrouver des marges de manœuvre, ça veut dire lisser cette fermeture de réacteurs, ce qui veut dire anticiper un certain nombre de fermetures, parce que la lisser en laissant tout vieillir, évidemment, poserait problème. Et puis, retrouver des marges de manœuvre, c'est aussi travailler sur la consommation d'électricité pour pouvoir, effectivement, faire évoluer la production.
Comme je le disais tout à l'heure, Aurélien Saucé, Valérie Faudon.
Bon, l'effet falaise, c'est maintenant. Parce que pour
tout est maintenant. Alors,
ah non, mais absolument, sauver la planète, c'est maintenant. Absolument, parce que en fait, pour être en ligne en 2035-2040, les décisions, c'est maintenant. C'est 15 ans un programme nucléaire entre toute la partie préparatoire, les enquêtes publiques, les décisions administratives, les procédures administratives. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, est inscrit dans la loi que le programme d'instruction doit être terminé en 2021. C'est à la fois pour des raisons énergétiques, de calendrier, à cause justement, il faut commencer à mettre en ligne et à construire et à réapprendre à construire dans les années 2030-2040, parce que à un moment donné, il va falloir accélérer. On dit on va faire une paire tous les 5 ans, puis à un moment donné, il va falloir deux paires tous les 5 ans.
Et donc, ce que vous dites au gouvernement, c'est il faut se lancer tout de suite, vous, en tant que délégué général de la Société française d'énergie nucléaire, se dire que dans 2 ans, il faudra prendre des décisions très rapides, et puis avant 2 ans, parce que sinon, on se retrouvera coincé.
Absolument. Et puis, il y a une deuxième raison. Alors, pourquoi, d'abord, avant de me dire ma deuxième raison, rapidement, pourquoi on serait coincé? C'est qu'en fait, on a bien vu que la raison pour laquelle le gouvernement avait repoussé les 50% de 2025 à 35, c'est parce qu'il aurait fallu construire 20 centrales à gaz, donc augmenter les émissions de CO2. Je vous donne rapidement ma deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la filière nucléaire, vous l'avez bien vu, elle a été en difficulté sur la construction de Flamanville.
Ah bah donc oui, là, elle vient de reconstruire. Manque de culture de la qualité, réalisme des estimations initiales.
Et donc là, il est important pour elle, maintenant qu'elle vient de faire un premier chantier, c'est de capitaliser sur l'expérience acquise. Et il n'y a pas à dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en construisant qu'on apprend à construire.
On a du mal à comprendre tout de même pourquoi cette grande industrie française a perdu autant. Je veux bien comprendre que pendant 15 ans on n'a pas construit de centrale, mais néanmoins le savoir-faire, il était présent, il était encore là chez la plupart de ceux qui fabriquaient ou qui auraient pu fabriquer des centrales.
Les gens sont partis à la retraite et puis vous savez, enfin, imaginez que vous ne faisiez pas votre métier pendant 15 ans, vous allez perdre l'expérience de faire votre métier.
Vous savez, la radio c'est comme le vélo, ça s'apprend et après on n'a jamais oublié.
C'est vrai dans tous les métiers techniques en particulier.
Sur ce point, Yves Marignac, Aurélien Saucé ensuite.
C'est amusant que vous parliez de vélo parce qu'il y a une phrase qui me revenait à l'esprit, là, qui est une citation de Monsieur Lévy, le patron d'EDF, l'an dernier, auditionné par une commission d'enquête. Il avait expliqué « EDF est comme un cycliste qui doit pédaler pour ne pas tomber ». Et c'est exactement ce phénomène de fuite en avant que Valérie Faudon vient d'expliquer. C'est-à-dire, on n'anticipe pas, on a un parc qui vieillit, donc on fait des scénarios où la seule option, c'est construire rapidement des centrales à gaz parce que c'est la seule option alternative. Évidemment, cette option n'est pas acceptable. Donc, il ne reste qu'à prolonger les centrales et à imaginer de construire des futurs EPR. Donc, cette fermeture, de l'industrie, de la filière sur elle-même et sur son modèle, elle vient d'être expliquée plus que clairement.
Non, mais pourquoi il faut des centrales à gaz? Pour faire des centrales à gaz, parce que ça fonctionne 24 heures sur 24. On ne peut pas aujourd'hui assurer la sécurité d'approvisionnement française avec des sources de production qui ne produisent. Regardez là, à l'heure où on est, l'Allemagne, qui ont investi des renouvelables 500 milliards, ils sont à 55% d'énergie fossile, charbon et gaz. Mais pourquoi? C'est parce qu'il fait nuit et parce qu'il n'y a pas de vent.
Si on fait des raisonnements comme ça, on peut aussi dire, par exemple, que l'EPR, aujourd'hui, son bilan, c'est 130 TWh, si je ne me trompe pas, de production charbon. Mais pourquoi? Parce que 10 ans de retard dans la mise en service d'un réacteur comme celui-là, c'est 10 ans de production de l'EPR, 13 TWh par an qui manque. C'est évidemment pas ce type de raisonnement qu'il faut faire. Je le dis juste à contre-exemple. Il faut raisonner systémique, ça a été dit tout à l'heure. Il faut raisonner dans l'urgence. Et l'urgence, ça n'est certainement pas de repartir pour 15 ans, 20 ans de programme d'éventuelle construction de nouveaux réacteurs.
Aurélien Saucé et puis ensuite Marc Defraigne. Aurélien Saucé.
Il y a quand même un élément, enfin, je trouve l'analyse de Madame Faudon remarquablement généreuse avec la performance de la filière nucléaire française au cours des dernières années. Bon, je comprends pourquoi. Mais il y a quand même un élément qu'on n'a pas rappelé, c'est que la construction de l'EPR de Flamanville, au départ, c'était pas la responsabilité d'EDF, c'était la responsabilité d'Areva.
Absolument.
Et ce qui s'est passé dans l'intervalle, c'est que la catastrophe financière a été telle qu'Areva a fait faillite et qu'il a fallu que l'État vienne à sa rescousse et qu'il y a un renflouement sur capitaux publics d'Areva. Et en fait, le risque qui existe, notamment avec le fait que EDF ait eu à reprendre le chantier de l'EPR de Flamanville et aussi...
Ce qui n'était pas sa formation première, puisque en fait EDF n'était pas fabricant.
Non, EDF a toujours été...
La première génération...
En charge de Flamanville.
Tout à fait. Non. La première génération, enfin la première vague du programme nucléaire dans les années 80 était de la responsabilité d'EDF. Mais par exemple, le chantier d'Hinkley Point, qui était donc le chantier à construire en Angleterre, qui a été confirmé cette année et qui doit démarrer cette année en tant que chantier, qui n'est pas prévu pour sa mise en service avant 2026. Ce chantier-là, il est dorénavant de la responsabilité d'EDF. Et il faut se souvenir que le directeur financier d'EDF a démissionné en protestation contre le fait que EDF se retrouvait avec cette charge du chantier d'Hinkley Point, justement parce qu'il reconnaissait qu'il y avait un risque financier énorme, parce que la technologie de l'EPR, certes, on a appris en forgeant, et ce qu'on a vu en forgeant, c'est que malheureusement, l'EPR n'était pas une technologie qui tenait ses promesses. Et même EDF l'a reconnu à demi-mot, puisque en 2015, EDF nous a appris qu'il développait une sorte de génération 3.5 qui serait un EPR simplifié, amélioré, et qui pourrait être construit à moindre coût et plus rapidement.
Plus simple à construire, en effet.
La construction, enfin, l'EPR, dans sa version telle qu'elle a été construite à Flamanville, en Finlande, ou telle qu'elle est prévue d'être construite à Hinkley Point, au Royaume-Uni, malheureusement, n'a pas tenu ses promesses. Mmh. Et j'aurais juste voulu revenir sur un autre élément de Madame Faudon, juste sur le fait que le défi du changement climatique était urgent, c'est tout à fait juste. Et à ce titre, il est intéressant de noter qu'au cours des 10 dernières années, le temps de construction moyen des réacteurs, non pas en France, mais sur l'ensemble de la planète, était de 10 ans. Donc ce n'est pas une technologie qui est capable de répondre à l'urgence climatique dans sa version actuelle, une fois encore, parce qu'elle est trop longue à mettre en ligne et à mettre en service.
Oui, Valérie Faudon.
En fait, parce que oui, il faut regarder deux choses en fait. Mais il y a eu un changement de génération. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la Chine a mis en ligne une trentaine de réacteurs depuis 2010 et ils annoncent qu'ils vont pouvoir tenir la cadence industrielle sur la nouvelle génération de réacteurs entre 6 et 8 réacteurs par an. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque la Chine, c'est un pays charbon. Donc, ils utiliseront le solaire, l'éolien et le nucléaire pour remplacer leur charbon.
Yves Marignac.
Au passage, d'ailleurs, la Chine, ne prévoit pas de construire de nouveaux EPR, hein, donc c'est qu'elle n'est pas totalement convaincue de la technologie elle-même. Et deux, surtout, la Chine, il y a des plans de ce type, mais on va attendre de voir si effectivement ils se réalisent. Mais surtout, il y a aujourd'hui une dynamique des énergies renouvelables en Chine beaucoup plus forte que celle du nucléaire, ce qui illustre complètement ce que vient de dire Aurélien Saucet, c'est-à-dire la vitesse à laquelle aujourd'hui les alternatives au nucléaire se développent est sans commune mesure avec la lenteur du nucléaire. Et c'est bien pour ça que face à l'urgence, ça n'est aujourd'hui clairement pas ça la solution.
Il y a plus de production nucléaire qui est mise en ligne aujourd'hui, une nouvelle production que les autres, mais de toute façon, il ne faut pas les opposer.
Fait une troisième contre-vérité, Madame Faudon.
La capacité nucléaire, elle produit 90% du temps. Donc quand on met de la capacité nucléaire en ligne, ça produit beaucoup, ça produit 24 heures sur 24. Et là encore, la Chine, son problème, c'est le charbon. Donc elle aura besoin de toutes les énergies solaires, éoliennes et nucléaires pour pouvoir éliminer son charbon.
Merci à vous quatre d'avoir discuté tranquillement de cette question qui pourtant échauffe assez souvent les esprits et les échauffe depuis maintenant plus de 40 ans autour de cette question du nucléaire et des autres énergies. Merci à vous Valérie Faudon, je rappelle que vous êtes déléguée générale à la Société Française d'Énergie Nucléaire, Yves Marignac, directeur de l'agence Wise Paris, mais également porte-parole de Negawatt, Aurélien Saucet, merci d'avoir été avec nous depuis Londres, où vous enseignez à la London School of Economics, et Marc Defray depuis Bruxelles. Je rappelle que vous êtes ancien expert pour l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Gwendoline Troyano, Rémi Bas, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Élise Leheu. À la vidéo, Morgane Danan. Et à la réalisation, Anne-Laure Chanel.